Le vœu suivant, il relève de la commission 3, donc, et résumé par Madame Roger Moigneux. Il s'agit d'un vœu qui avait été conjointement déposé par Madame Abadie et Madame Salio au nom de leur groupe.
Et merci, Monsieur le Président. Effectivement, donc c'est Madame Abadie, Madame Salio et Madame Mercier qui avaient effectivement déposé ce vœu. La proposition a été adoptée, ou en tout cas un vote favorable à l'unanimité lors de notre commission 3 du 22 septembre dernier. Et donc nous vous proposons donc de formuler le vœu suivant auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées et du ministre de la Santé. Le vœu suivant. Le conseil départemental demande la réouverture de places d'accueil de jour au sein des IME, donc des instituts médico-éducatifs, ainsi que la création de postes de professionnels accompagnants pour que chaque enfant porteur de handicap dispose d'un accès à l'école.
Donc, il y avait consensus sur cette formulation. Donc, la proposition serait de reprendre l'avis de la commission. Donc, c'est le sens de la proposition que je vous fais, qui serait l'adoption de ce vœu. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne prendraient pas part au vote, qui s'abstiendraient, qui voteraient contre? Donc, il est adopté à l'unanimité. Je ferai juste un point de signalement et de vigilance au niveau national. On voit actuellement les ministres en charge des questions sociales et notamment des problématiques de handicap pointer aujourd'hui l'action des MDPH en disant que beaucoup de MDPH seraient trop prescriptives, ce qui est une façon de se désengager du sujet en disant qu'il n'y a pas vraiment de problème, mais c'est parce que les MDPH posent trop de sujets qu'il y aurait des difficultés. Donc, j'ai entendu ça deux fois, notamment lors de la rencontre qu'on a pu avoir avec la Première ministre. Ça suscite quand même un peu d'inquiétude chez les présidents de département, et là, je dirais de toute sensibilité confondue, parce que c'est une curieuse façon d'aborder le problème. Monsieur Bourgeot.
Oui, Président, chers collègues, permettez-moi de rebondir, puisque lundi dernier, on avait une réunion, les parlementaires, avec l'ARS. Et c'est vrai que sur trois questions posées par les parlementaires, la MDPH est venue sur le, on va dire, sur le tapis, si on veut dire, ou dans la discussion. Alors, je voudrais un peu nuancer, alors, ce que vous dites, parce que c'est pas ça que moi j'ai compris dans les propos de mes collègues et de moi-même, puisque j'ai fait partie de ceux qui ont posé une question. C'était qu'on induisait chez les personnes, lorsqu'elles recevaient des avis, on induisait une certaine forme de, comment je vais dire, d'espoir, et que malheureusement derrière, et là ça a bien été dit que vous n'êtes, du moins, puisque je vais dire nous, puisque je suis fier d'appartenir à ce département, et que malheureusement on n'y est pour rien derrière, puisque derrière, dans ces notifications, bien souvent nous ne sommes pas responsables de sa mise en œuvre ou des accompagnements que l'on préconise, et exemple quand c'est de rentrer dans un établissement, d'avoir exemple. Le plus gros problème aujourd'hui, d'avoir une AVS, puisque pour moi c'est le plus gros problème aujourd'hui, c'est l'accompagnement par rapport à ces publics fragiles et généraux. Et malheureusement, il y a beaucoup de postes à pourvoir et on ne trouve personne. Et voilà, je voulais juste compléter, Président, puisque voilà, merci de me permettre de dire que moi j'ai pas senti quand même que c'était la MDPH qui était pointée du doigt. C'était plutôt que c'est vrai que quand ces familles reçoivent et que c'est signé l'entête et MDPH, que c'est signé MDPH, donc, voilà, de nos services, derrière, ça génère de l'espoir, et que bien souvent, malheureusement, derrière, ça débouche sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire que il n'y a pas les moyens derrière, ou il n'y a pas la mise en place de ce que les gens reçoivent. C'était, voilà, je voulais juste compléter parce que je fais partie des gens qui défendent notre institution et ça MDPH.
Alors, merci pour ce témoignage, mais je crois que ce que nous disons n'est pas contradictoire. Vous évoquez le ressenti d'un certain nombre, c'était au niveau de parlementaires. Et il est vrai que très souvent, la difficulté de compréhension entre la prescription qui ouvre des droits et la capacité à apporter la réponse à ces droits, elle est réelle, et c'est un problème ancien et qui peut s'intensifier. Le fait que je pointais, moi, c'était des déclarations ministérielles disant qu'il y avait trop de prescription, notamment dans le secteur des auxiliaires de vie sociale, et que l'idée, c'était de dire, bon, en gros, il y aurait une forme un peu peut-être de laxisme, on en prescrirait trop et ça conduira à des difficultés. Ce à quoi on peut, par exemple, répondre qu'en Ille-et-Vilaine, et je l'ai fait à plusieurs reprises, hein, à écrire au ministère, y compris plusieurs fois au Premier ministre, il y a en Ille-et-Vilaine un déficit structurel de plus de 1000 places en IME si on appliquait simplement les ratios nationaux de couverture population place en IME. Et ça s'est détérioré au fil des années. Alors, c'est une lente détérioration, mais la réalité aujourd'hui, l'application des ratios nationaux, on l'a redit il y a quelques mois avec mes collègues Anne-Françoise Courtaise et Armel Billard, on avait rencontré l'équipe de direction générale de l'ARS de Bretagne, que ce problème-là n'était toujours pas pris en compte et que ces 1000 places, en appliquant les ratios, on devrait avoir ces 1000 places en plus. Alors, on ne demande pas à les avoir instantanément, mais c'est quand même un processus sur lequel il faut agir. Alors, Madame Abadi.
Oui, je suis complètement d'accord avec vous, Monsieur le Président, et avec tes propos, Jean-Luc. Je voudrais vous donner l'exemple de la petite Clervia, qui a 12 ans, qui est atteinte de déficience intellectuelle. Elle est scolarisée en classe ULIS depuis plusieurs années et suivie par un CESAD, donc un suivi parfait. Cependant, quand elle arrive en sixième, aucune continuité ne peut lui être assurée dans son accueil, parce qu'il n'y a pas d'IME, ou il n'y a plus de classe ULIS vu son âge. C'est le problème qu'on a abordé hier sur la continuité. Elle ne sait ni lire ni écrire, et on la place dans une classe de sixième, en lui disant « on va vous donner un accompagnant avec vous toute la journée ». Mais en fait, c'est de la maltraitance pour cet enfant, et pour sa maman, parce qu'elle ne peut pas décemment aller dans une classe de 28 élèves, sans savoir ni lire et écrire, et suivre un cours de sixième. Donc voilà où on est aujourd'hui, parce que vous dites manque d'établissements médico-éducatifs au bon âge. Alors quelquefois on fait un effort pour les enfants en bas âge et on va créer une maternelle, mais ça ne va pas suivre en primaire, ça ne va pas suivre ensuite dans les niveaux supplémentaires. D'où aussi, dans ce vœu, on a insisté sur ce fait-là. Jean-Louis Touraine, ce matin, nous rappelait que chacun peut espérer vivre avec les autres dans la meilleure relation possible. Il nous a parlé de l'injustice sociale et du manque de mots de vocabulaire de certaines populations, ce qui les empêche de s'intégrer correctement dans notre société, malgré leur accès à tous à l'école. Qu'en est-il alors des enfants en situation de handicap qui n'ont aucun mot ? Voilà. Et qui n'ont pas du tout accès à l'école.
Merci pour ce témoignage. Alors, Madame Mercier.
Oui, merci Monsieur le Président, merci à tous pour cette validation, ce vote de ce vœu. En fait, je voudrais l'illustrer avec la lecture de la sollicitation d'une maman désespérée, sollicitation qui m'a été transmise en mars dernier. Cette maman dit « Je me permets de vous écrire pour mettre en lumière l'attente beaucoup trop longue d'une place en IME. Notre fils, Quentin, a 8 ans. Il attend une place en IME depuis 2 ans. L'année scolaire prochaine sera trop difficile pour lui en école normale, donc c'est septembre là, et ce n'est plus sa place. Donc c'est ce qui rejoint un petit peu ce que vient de dire Florence, à savoir de mettre un enfant dans une classe qui en fait ne lui correspond pas par rapport à ses compétences. Donc aussi, parlons du désespoir de tous les enfants et de toutes les familles qui sont dans ce cas. Tout d'abord, la difficulté d'intégration et de vie des jeunes enfants porteurs de handicap dans les structures ordinaires de scolarité. Au-delà de leur handicap, ces jeunes enfants sont mis en difficulté, s'isolent parce qu'ils n'ont pas la capacité à suivre une scolarité normale. Ils sont souvent en âge de comprendre et appréhendent la journée scolaire, sont inquiets du lendemain. Cette situation peut avoir des conséquences graves pour l'équilibre et l'avenir de ces enfants. Parlons aussi des parents qui n'ont aucun moyen de venir en aide à leurs enfants malgré de nombreuses démarches engagées. Le souhait de ces enfants et des familles pour leurs jeunes est simplement de pouvoir s'intégrer dans un environnement qui leur soit favorable, de vivre sereinement et avec les autres dans les meilleures conditions possibles et de s'épanouir. Une des réponses à cette problématique est bien d'intégrer un IME. Mais aujourd'hui, ces familles constatent un manque de place évident dans ces établissements. Si peu de place pour un si grand nombre de jeunes qui en ont pourtant besoin. Donc nous devons les aider à devenir autonomes et à s'épanouir dans notre société, ceci sans délai d'attente et dès que le handicap est avéré. Merci pour ce vote.
Bien, merci. Je préciserai juste, mais chacun le sait, bien sûr, que dans les répartitions des compétences, la question du handicap enfant est une compétence État et que notre compétence nous commence avec les foyers de vie, les foyers d'hébergement, les SAVS et toute une série de dispositifs divers et auxquels nous consacrons, je le rappelle, un budget de près de 170 millions chaque année dans notre domaine d'intervention. Mais l'IME est compétence Agence Régionale de Santé, donc c'est donc à cette institution et au ministère correspondant qu'on adressera ce vœu donc, que je soumets au vote et avec une proposition de l'approuver tel qu'il a été travaillé en commission. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas part au vote, qui s'abstiennent, qui votent contre? Il est donc adopté à l'unanimité.